France Culture. Le journal, Marie-Hélène Duvigneault.
Bonjour à tous, il est 9h. Les préfets appelés à renforcer la vigilance autour des rassemblements politiques après la mort hier à Lyon d'un jeune, apparemment militant d'un collectif d'extrême droite. Il avait été blessé en marge d'une conférence de l'eurodéputé LFI, Rima Hassan. La campagne des municipales est une nouveauté à Paris, Lyon et Marseille. Les électeurs voteront cette année d'un côté pour leurs élus des mairies d'arrondissement, de l'autre pour ceux du conseil municipal de la mairie centrale. Le sort du Groenland débattu à la conférence sur la sécurité de Munich hier, selon la première ministre danoise, Donald Trump veut toujours s'en emparer. Et puis, combat de plus en plus violent au Soudan du Sud alors que la famine menace. Le programme alimentaire mondial de l'ONU et certaines ONG sont obligées de suspendre leurs activités. La mort hier à Lyon du jeune Quentin, un étudiant proche du collectif d'extrême droite Némésis. Il était hospitalisé depuis jeudi soir après des violences en marge d'une conférence de l'eurodéputée insoumise Rima Hassan. L'enquête se poursuit alors que les circonstances de sa mort restent assez floues. Bonjour Timo Rosturk.
Bonjour à tous.
Alors vous êtes à Lyon. Que sait-on ce matin des violences qui ont conduit à la mort de cet étudiant ?
Jeudi soir à 18h, l'eurodéputée insoumise Rima Hassan tient une conférence à l'Institut d'études politiques de Lyon dans le 7e arrondissement. Quant à l'extérieur du bâtiment, le collectif identitaire Némésis déploie une banderole islamo-gauchiste hors de nos facs pour protester contre sa venue. Vers 18h40, ces militantes de Némésis sont prises à partie. Sur une vidéo, on voit l'une d'elles violemment plaquée au sol. D'après le collectif, Quentin fait alors partie d'un groupe d'une quinzaine d'hommes présent pour assurer la sécurité des militantes. À quelques centaines de mètres de Sciences Po, rue Victor Lagrange, une rixe éclate entre deux groupes d'une vingtaine de personnes, selon un riverain interrogé par nos confrères de TF1. Ce témoin filme la scène, mais sur les images, ce n'est pas un affrontement, mais bien un lynchage que l'on observe. Trois personnes au sol, tabassées par une douzaine d'autres. Coup de poing, coup de pied à la tête. Deux victimes se relèvent et s'éloignent. La troisième personne reste au sol, inanimée. Il pourrait s'agir de Quentin. L'avocat de sa famille dénonce un guet-apens tendu par des individus organisés, entraînés et armés.
Et ce sont donc des antifascistes qui sont accusés par les militantes de Némésis d'être les auteurs de ces violences, Timour.
Oui, des militants de la Jeune Garde antifasciste, groupe fondé en 2018 par Raphaël Arnaud, aujourd'hui député La France Insoumise, dissous l'année dernière en juin en Conseil des ministres. Les militantes identitaires disent avoir reconnu un collaborateur parlementaire de Raphaël Arnaud. La France Insoumise réfute, elle, toute responsabilité dans ces violences. C'est vers 19h40 et à plus d'un kilomètre de la rue Victor Lagrange, quai Fulchiron, en bord de Saône, que Quentin, très grièvement blessé, est pris en charge par les pompiers après un appel de ses amis. Le parquet de Lyon indique que l'enquête se poursuit. Désormais pour coups mortels aggravés, violences aggravées en réunion avec usage d'armes et dissimulation du visage.
Timo Rosturk à Lyon. Ce matin, dans un entretien à Radio J, enregistré vendredi avant la mort de ce jeune à Lyon, Emmanuel Macron affirme que LFI est bien un mouvement d'extrême gauche. Il précise qu'y émergent des expressions antisémites qui doivent être combattues. Hier, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a lui appelé les préfets à renforcer la vigilance autour des rassemblements de nature politique ainsi qu'autour des permanences de campagne. Campagne bien sûr en vue des municipales des 15 et 22 mars, des élections qui s'accompagnent d'une nouveauté à Paris, Lyon et Marseille. Dans les trois plus grandes villes de France, on votait jusqu'ici pour des listes de conseillers d'arrondissement qui obtenaient ainsi des sièges au conseil municipal et élisaient le maire. Cette année, les électeurs voteront d'un côté pour leurs élus des mairies d'arrondissement et de l'autre pour ceux du conseil municipal de la mairie centrale. L'organisation des bureaux de vote va donc changer et les municipalités s'y préparent. Illustration à Marseille où la mairie a créé un bureau de vote témoin pour former ses agents, Mathilde Vincenot.
À Paris comme à Marseille, les électeurs voteront deux fois, deux urnes différentes placées de chaque côté de la pièce dans ce bureau de vote témoin. Il n'y aura pas de confusion possible entre le vote pour les conseillers d'arrondissement et le vote pour les conseillers municipaux, assure Marie-Hélène Kerr, directrice du pôle élection à la ville de Marseille.
L'électeur trouve une table devant lui. Il va y trouver des enveloppes de couleur marron qui sont les enveloppes de la couleur mairie centrale. Il va trouver sur la même table les bulletins pour la mairie centrale. Il se dirige vers l'isoloir, il va mettre le bulletin de son choix dans l'enveloppe et voter à la table de vote dans l'urne. Et ensuite, il entame un deuxième parcours complet, une deuxième table sur laquelle il trouvera les enveloppes de couleur bleue pour la mairie de secteur, les bulletins concernant la mairie de secteur, aller dans l'isoloir et ensuite voter à l'urne. On a vraiment tout fait pour que les lecteurs puissent avoir un chemin naturel qui ne crée aucun doute dans son esprit.
Sandrine et Robert sont des agents de la ville. Ils sont en train d'être formés à répondre aux futures questions des électeurs dans les bureaux de vote.
Pourquoi est-ce que maintenant on a deux scrutins différents ?
Vous êtes un collab maintenant sur compétences mairie centrale, mairie
c'est
de secteur ?
C'est ça, plus ou moins.
Il faudra faire preuve de pédagogie pour que tout se passe dans les meilleures conditions.
À Lyon, les électeurs auront même un troisième bulletin à glisser dans l'urne pour élire les conseillers de la métropole.
Après la publication de millions de documents liés au criminel sexuel américain Jeffrey Epstein, le parquet de Paris annonce la saisine de magistrats référents pour analyser d'éventuelles infractions liées à des Français. Ils devront aussi procéder à une réanalyse intégrale du dossier d'instruction d'un proche de Jeffrey Epstein, l'ex-agent de mannequin Jean-Luc Brunel, mort en détention en 2022. France Culture, 9h et bientôt 6 minutes, la sécurité en Arctique, thématique au centre des récentes velléités trumpiennes de s'emparer du Groenland, a tenu hier le haut de l'affiche à la conférence sur la sécurité de Munich. Lors du récent forum de Davos, le président américain avait modéré son propos, mais ses appétits sont toujours là. Le point avec notre envoyé spécial à Munich, Eric Biegala.
Mette Frederiksen, la première ministre du Danemark, dont le Groenland est un territoire autonome, a prévenu « Donald Trump a toujours l'intention d'acquérir le Groenland ». Et le premier ministre groenlandais, Jens Frederik Nielsen, a renchéri lors de la même table ronde. « Cette histoire n'est pas finie », a-t-il dit, même s'il y a eu quelques pas dans la bonne direction, indiquant que des discussions sont en cours avec les Américains au sein d'un groupe de travail discret. Tous se sont en revanche félicités de la nouvelle opération de l'OTAN dans la région, Arctic Sentry, censée sécuriser la zone. Dans d'autres tables rondes, ici à Munich, le président finlandais Alexander Stubb révélait que l'opération pourrait déployer 20 000 hommes et le premier ministre Keir Starmer annonçait l'envoi d'un des deux porte-avions britanniques dans la région. Tout le paradoxe de cette opération Arctic Sentry, où les Européens se sont mobilisés en quelques jours à peine, relevait fièrement le ministre de la Défense allemand, c'est que la principale menace qui aujourd'hui pèse sur l'Arctique et particulièrement sur le Groenland n'est ni russe ni chinoise, contrairement à ce qu'affirme Washington. Elle émane principalement du locataire de la Maison Blanche lui-même.
Barack Obama condamne les opérations de la police de l'immigration dans le Minnesota. L'ancien président américain démocrate les compare aux comportements observés dans les dictatures. Et puis, réagissant pour la première fois au partage par Donald Trump d'une vidéo raciste le dépeignant en singe, il déplore la dégradation du discours politique réduit, selon lui, à un spectacle de clown. Les Soudanais du Sud, obligés de fuir des combats que rien ne semble pouvoir arrêter. Alors que la famine et les maladies menacent, les zones d'affrontement se sont même étendues vers l'Est et l'État de Jonglei. Ils sont si violents que le Programme alimentaire mondial de l'ONU et certaines ONG comme Save the Children, incapables de protéger leurs employés, ont décidé de suspendre leurs activités, Ajra Mohamed.
Les combats n'ont jamais été aussi intenses dans l'état de Jonglei.
C'est du jamais vu.
Virginia Moura travaille chez Oxfam. Son ONG a déjà aidé 400 000 habitants au Soudan du Sud, mais elle a dû suspendre ses activités après une attaque le 9 février dernier contre ses employés.
Nos infrastructures, elles ont été pillées, nos véhicules, ils ont été volés, et le plus important, c'est que certains de nos collègues, ils ont été physiquement attaqués et battus. C'est vraiment une décision de dernier recours de devoir suspendre les activités.
Suspension des activités aussi chez Save the Children, après que deux de ces convois humanitaires, pourtant bien identifiés, ont été attaqués par des hommes armés.
De toute évidence, c'était intentionnel.
Chris Niamandi est le directeur de l'ONG britannique en Afrique.
L'année dernière, il y avait des combats dans différentes régions, mais on pouvait toujours travailler dans une certaine indifférence. Mais depuis cette année, dans ces mêmes zones, les travailleurs humanitaires sont désormais pris pour cible, ce qui rend notre travail difficile.
Quant à MSF, Médecins Sans Frontières, présente dans la région depuis plus de 40 ans. L'un de ses hôpitaux a été touché par une frappe aérienne des forces gouvernementales. Un autre a été récemment pillé, mais pas question de s'en aller pour autant, assure Christophe Garnier, chef de mission.
Je ne veux pas minimiser les attaques, surtout pas. Mais parfois, je pense que c'est des actes désespérés, plus que des actes volontairement agressifs envers les humanitaires. C'est-à-dire que quand vous avez faim, si vous voyez de la nourriture passer, vous allez la prendre, quoi. Si vous savez qu'il n'y a plus d'humanitaire qui va faire des soins et que vous avez besoin de vous soigner, ben vous allez aller le chercher par vous-même. C'est ce que j'appelle du désespoir.
Désespoir dans un pays où 6 millions d'habitants, soit la moitié de la population, sont désormais menacés par la famine.
Le temps aujourd'hui, une nouvelle perturbation apporte ce matin de la neige en plaine au nord. Cet après-midi, elle se décalera de l'Auvergne aux régions de l'Est, alors qu'à l'Ouest, ce sera de la pluie plus lumineuse sur le pourtour méditerranéen. Les températures au meilleur de la journée, 0 à 5 degrés sur le quart nord-est, 8 à 13 à l'ouest, 14 à 16 près de la Méditerranée.